Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les nouvelles du ciel, et quelles nouvelles nous allons avoir aujourd'hui? Restez bien à l'écoute. Une surprise vous attend sur la fin de cette émission. Nous avons avec nous Denis, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, excellente nouvelle que nous allons avoir. Mais avant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce vide que l'on voit entre les étoiles, parce que les étoiles sont éparpillées dans le ciel ou les planètes, et bien sûr, il y a du vide entre.
Oui, en fait, ce n'est qu'une impression. Hein.
Ah.
Une impression de vide, c'est comme l'atmosphère terrestre dans laquelle nous baignons. Hein.
Mm-hmm.
Vous avez du gaz constitué de 78% de diazote et de 21% de dioxygène et des gaz rares hein, qui constituent donc l'atmosphère terrestre. Et c'est vrai, quand on regarde donc, autour de nous, eh bien, on a l'impression que ces fameuses molécules gazeuses n'existent pas.
Et oui, voilà. C'est l'impression qu'on a de vide.
Voilà, c'est l'impression de vide qu'on peut avoir également pour le cosmos et plus particulièrement entre les corps célestes, hein, entre les étoiles et les différents corps rocheux tels que les astéroïdes. Entre justement, eh bien, vous n'avez pas de vide absolu.
Oui, il y a ce gaz dont vous venez de parler.
Ce gaz dont je viens de parler constitue l'atmosphère terrestre hein, et non le milieu interstellaire, c'est-à-dire situé entre les étoiles. Pour justement en revenir justement sur ce milieu interstellaire qui est constitué donc de gaz et de poussière, énormément de poussière, des petites particules de poussière qui sont extrêmement petites, hein, qui ont des tailles comme des particules de fumée de cigarette. Hein.
Ah oui,
voilà.
Et ça vient d'où cette poussière?
Alors cette poussière, elle vient de l'explosion en fait d'étoiles, hein, qu'on appelle aussi des supernovas, hein, entre autres, qui rejettent tout le gaz et la poussière et qui va aussi enrichir aussi le milieu donc interstellaire.
Mm-hmm.
Alors c'est de la poussière qui est très importante pour la formation des étoiles, mais ça peut être aussi une gêne justement pour les astronomes pour observer certaines régions du ciel et notamment vers le centre de notre galaxie, de notre Voie lactée. Je vous rappelle que nous autres, la Terre, l'ensemble du système solaire, on fait partie d'un immense système d'étoiles qu'on appelle une galaxie, la Voie lactée, hein, qui est constituée à peu près de 200 milliards d'étoiles, à peu près, qui est répartie sur un disque galactique. Et vous avez un noyau central hein, qui est constitué d'un bulbe qui est très concentré donc, en étoiles. Et vous avez en plus, entre ces étoiles, du gaz et de la poussière. Et comme je le disais, cette poussière est constituée de particules à base de silicate, de fer, entre autres, et qui sont de la taille des particules de la fumée de la cigarette, hein, c'est-à-dire des tailles qui sont comprises entre 10 et 1000 nanomètres. Un nanomètre, ça correspond à 10 puissance 9 mètres.
Ça me fait trop rire, après les années-lumière.
Là, on a affaire donc, à l'infiniment petit. Voilà.
Ah oui, en effet.
Le problème, c'est que ces poussières-là ont tendance à jouer le rôle d'absorbant de la lumière qui peut nous provenir justement de ces étoiles. C'est particulièrement compliqué quand on observe dans le domaine du visible. Donc là, il va falloir sélectionner d'autres types de rayonnement justement pour pouvoir traverser ces barrières de poussière et pouvoir ce qui se passe concrètement dans les régions centrales justement de la galaxie.
Oui.
Et sachant que ces particules divisent d'un facteur de 2 chaque 1000 années-lumière. C'est-à-dire que l'intensité lumineuse en fait, qui nous parvient de l'étoile est divisée par 2 hein, sur des tranches de 1000 années-lumière. Et comme notre centre de la galaxie, lui, est situé à environ à 26 000 années-lumière, donc je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an à une célérité de 300 000 km à la seconde, ce qui équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous faites 10 000 milliards multipliés par 26 000 années-lumière, et bien vous avez la distance qui nous sépare du centre de la galaxie. Et là on se retrouve avec un facteur d'atténuation de la lumière qui peut s'élever à plusieurs millions de fois. Ça fait que nous avons du mal à observer dans le domaine du visible, surtout dans ces fameuses régions. Justement, cette matière interstellaire, non seulement elle est constituée de ces fameuses poussières, hein, de silicates, oui, de fer. Alors c'est intéressant, le fer, pourquoi ? Parce qu'on a un phénomène de polarisation des atomes de fer, et ce qui nous permet de pouvoir étudier le champ magnétique de la galaxie, et notamment son orientation, en étudiant justement l'orientation de ces particules de fer. Donc ça nous donne déjà une bonne indication. Ensuite, non seulement on a de la poussière, mais on a aussi du gaz, d'accord ?
Oui.
Donc le gaz, c'est de l'hydrogène, hein, c'est de l'hydrogène, c'est-à-dire c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et c'est grâce à cet hydrogène, justement, et à ces particules qui vont catalyser justement la création donc des étoiles. Donc ça, c'est un chapitre que je traiterai oui, ultérieurement.
Oui, parce qu'il doit être énorme.
Voilà, il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là. Mais pour en revenir donc à ce gaz, hein, cet hydrogène, hein, ces particules qui ont un rôle fondamental justement pour les naissances stellaires,
oui, hein,
c'est-à-dire des étoiles. Alors nous distinguons des régions d'hydrogène, deux types de régions, on appelle les régions H1. Hein. Les régions H1, ce sont des régions qui sont constituées d'hydrogène neutre. Là, les régions sont, on va dire, relativement froides. Hein. Ça tourne autour des 100 Kelvin. Alors, le Kelvin, le degré Kelvin, c'est une unité qu'on utilise en physique, hein, surtout quand on étudie la thermodynamique. Il y a une relation entre le degré Kelvin et le degré Celsius. C'est-à-dire, pour obtenir le degré Kelvin, il suffit de rajouter 273 au degré Celsius. Par exemple, si vous avez 0 degré Celsius, hein, que vous voyez sur votre baromètre, hein, ben vous rajoutez 273, et bien là, vous avez le degré Kelvin, c'est-à-dire 273 degrés Kelvin.
Oui,
voilà. Donc c'est une unité conventionnelle qu'on utilise.
Et c'est donc chaud.
Non, c'est relativement froid.
Ah, ben d'accord.
Voilà, c'est relativement froid.
Il n'y a pas de moins, alors c'est...
Alors, on peut avoir ce qu'on appelle le zéro absolu, hein,
oui,
qui correspond à moins 273 degrés.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est-à-dire, quand je disais autour de 100 Kelvin, il suffit de retrancher les 273
oui,
pour avoir la température en degrés Celsius. 100 degrés Kelvin, c'est une température qui est relativement froide, hein,
oui,
par rapport aux régions H2, où là, vous avez de l'hydrogène qui est ionisé sous l'action, justement, des étoiles qui émettent des rayonnements ultraviolets. Notamment des étoiles de type O et B, hein, qui sont des étoiles qui sont extrêmement chaudes. Hein. Les étoiles O, ça peut grimper jusqu'à facilement 40 000, 50 000 degrés Kelvin. Et le rayonnement qui est émis permet de pouvoir donc ioniser le gaz hydrogène qui est situé à proximité. Sinon, pour revenir justement aux régions H1, des régions d'hydrogène neutre, ce sont des régions qui sont relativement froides et qu'on ne peut pas observer avec les télescopes optiques, et on est obligé d'utiliser d'autres instruments tels que les radiotélescopes.
Mmh.
Et les radiotélescopes permettent de pouvoir étudier ce qu'on appelle l'arrêt H à 21 cm, hein, c'est-à-dire l'arrêt de l'hydrogène neutre, qui permet de pouvoir mieux étudier les structures des galaxies. Hein. C'est-à-dire que notre galaxie, la Voie lactée, est constituée encore d'hydrogène neutre, ce qui peut donner naissance à de nouvelles étoiles.
Oui.
Et on peut mieux étudier la répartition du gaz, justement, dans notre galaxie.
Oui. Est-ce que les mouvements des planètes, justement, génèrent plus de gaz ? Les planètes, vous nous avez dit une fois qu'elles bougeaient aussi dans l'espace.
En effet, les planètes se meuvent dans l'espace, oui. Notamment autour de notre chef d'orchestre.
Le Soleil.
Le Soleil. Je vous rappelle que le Soleil, hein, c'est quand même une étoile, hein,
oui.
Hein, et non une planète. Hein. Mm-hmm. Je rappelle la différence fondamentale entre une planète et une étoile. Une planète, c'est un corps qui est mort, hein, qui ne vit pas par sa propre lumière. Donc, il ne rejette pas de gaz ou de particules dans le milieu interstellaire, contrairement aux étoiles comme le Soleil, par exemple. Hein. Vous avez des étoiles aussi qui sont quand même beaucoup plus grosses, qui ont une couleur qui est beaucoup plus rouge, hein, ce qu'on appelle aussi les géantes rouges, c'est-à-dire des étoiles en fin de vie, qui rejettent énormément de poussière, de gaz, justement, et qui va enrichir le milieu interstellaire,
d'accord.
Contrairement aux planètes.
Oui. Hein,
les planètes ne font que réfléchir la lumière d'une étoile dans l'environnement, hein, comme le Soleil, mais ne rejettent pas de gaz ou de poussière.
Oui.
Comme le font les étoiles.
Oui. Quand il y a un volcan, bon, je parle sur la Terre, nous avons des volcans qui émettent énormément de poussière. Est-ce que tout ça va enrichir justement ce milieu interstellaire ?
Non, pas du tout, parce que c'est en fait...
ça se dilue dans l'air ?
Ça se dilue dans l'air.
Oui.
Donc ensuite, bon, il y a quand même beaucoup de strates atmosphériques qu'il faut franchir.
Ah oui.
Et puis c'est retenu par la gravité.
Hein. Ah oui, d'accord.
Et oui, ça c'est important, la gravitation. Hein, c'est une des quatre interactions fondamentales, hein, qui existent dans l'univers et qui permet d'expliquer pourquoi il y a ces phénomènes, je dirais, d'attraction. Hein. Mm-hmm. Si on extrapole donc ces poussières de volcans au corps humain, on pourrait se dire, mais pourquoi nous autres, on ne va pas justement se perdre également dans l'espace? Non, on est retenu par la gravité, hein, la gravité qui a quand même un rôle donc, qui est important, qui nous retient justement sur la Terre. Alors bien sûr, la gravité est variable d'une planète à une autre. Hein. Des planètes comme Jupiter, hein, qui sont beaucoup plus massives, auront une gravité quand même beaucoup plus importante que celle de la Terre. Et qui dit gravité, dit force. Quand vous allez par exemple au supermarché et demandez par exemple 100 kilos de patates, hein, vous remarquerez que vous vous faites arnaquer le plus souvent, si j'ose dire. Parce que quand vous demandez 100 kilos, hein, kilos, c'est un multiple, hein, ça signifie 1000 hein, kilos. Hein. Donc là, il faut bien préciser...
kilogramme.
Kilogramme, voilà. Hein. Et quand on parle de kilogramme, on parle non pas de poids, hein, mais de masse. Alors, quelle est la différence justement entre le poids et la masse ? La masse est une quantité de matière. Hein. C'est-à-dire que c'est invariant, hein, si vous faites 100 kg sur la Terre, hein, d'accord, vous ferez aussi 100 kg sur la Lune. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tandis que le poids, contrairement à la masse, est une force d'attraction. Et ça s'exprime non pas en kilogrammes, mais en newton. Hein, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer les forces. Il hein. faut bien faire, bien nuancer les deux. Hein. Quand vous demandez 100 kg de patates, ce n'est pas un poids, mais c'est une masse. Hein. Mm-hmm. Par contre, si vous demandez 100 kg de pommes de terre, eh bien, le maraîcher est amené à, normalement à mettre 1000 pommes de terre dans le sac. Alors
d'accord.
Que c'est, on est loin du compte.
Tout à fait. Non, mais c'est bien imagé. C'est bien imagé, c'est bien. Le mouvement des astéroïdes, parce que je suppose que ces plus petites masses qui sont en mouvement dans la galaxie, pluies doivent générer de la poussière, doivent générer aussi des courants d'air dans ce gaz. Est-ce que tout ça, c'est bénéfique ?
Tout ça, bien sûr, il y a, je dirais, un brassage de la matière au niveau du milieu interstellaire. Mais les astéroïdes, proprement dit, conservent par le fait de leur gravité, justement, leur constituant. C'est surtout les comètes. Les comètes qui proviennent d'un réservoir qui est situé au fin fond du système solaire, qu'on appelle aussi le nuage de Oort, qui va justement sous l'attraction stellaire. Donc ça peut être sous l'attraction solaire ou sous l'attraction d'une étoile qui est située en dehors de notre système solaire. Vous avez par exemple l'étoile Proxima du Centaure qui est située à peu près à 4 années-lumière de la Terre, qui peut justement aussi impacter gravitationnellement parlant ce fameux nuage de Oort et expulser par exemple des noyaux cométaires à l'extérieur de notre système solaire.
D'accord.
Ou alors ça peut être le Soleil, lui, qui peut arracher justement un bloc constitué essentiellement de noyaux rocheux entouré de glace qui, lorsqu'il va se décrocher, va se placer sur une orbite. Alors, cette orbite aura des caractéristiques bien particulières parce que vous avez des orbites qui sont dites paraboliques qui vont pouvoir générer aussi des trajectoires, disons, qui vont être plus ou moins excentrées.
Oui.
Excentrées. Vous avez des comètes aussi qui sont dites périodiques, qui vont comme la comète de Halley,
qui passe périodiquement,
qui va passer donc périodiquement autour du Soleil. Et lorsque la Terre justement va traverser la trajectoire justement de ces comètes, qui laissera au passage des particules, eh bien ça donnera naissance à ces fameuses étoiles filantes que nous voyons dans le Soleil. Pourquoi ? Parce que la Terre, lors de son passage, et par la gravitation, capturera en fait ces poussières qui sont laissées sur la trajectoire de cette comète. Et donneront naissance à ces fameuses étoiles filantes.
Avant d'arriver à la bonne nouvelle, en décembre, qu'est-ce qu'on va voir dans notre ciel ?
Concrètement, en décembre, il y a le ciel d'hiver qui est, je dirais, caractérisé, symbolisé par la fameuse constellation d'Orion avec son fameux baudrier, ces fameuses trois étoiles
qui sont
côte à côte. Il s'agit donc d'Alnita, Kalninam et Mitanka, ces trois étoiles qui constituent le fameux baudrier d'Orion. Et quand vous prolongez ces étoiles vers le sud-est, plus exactement, eh bien, vous tombez sur une étoile brillante qui est Sirius, l'étoile la plus brillante et du ciel d'hiver de la constellation du Grand Chien.
Oui. Voilà. On va avoir aussi l'étoile du Berger.
Et l'étoile du Berger. En ce moment, vous pouvez la voir direction est avant le lever du soleil.
Donc, elle est très grosse, on la voit très bien.
Voilà, elle est très très lumineuse. Donc attention, ce n'est pas une étoile.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une planète. Il y a des choses quand même à préciser à ce niveau-là, parce que visuellement, ça a une apparence d'étoile. Mais en réalité, c'est une planète. C'est-à-dire que, vu la distance qui nous sépare de Vénus, c'est un petit point matériel. Et comme c'est un corps qui est mort, eh bien, ça ne fait que réfléchir la lumière du soleil. C'est pour ça que ça a l'apparence d'une étoile.
Et puis, vers la Noël, elle sera plus, par rapport aux Pléiades à la Trappe, elle sera plus vers le pic du midi, on va dire, à peu près.
C'est vrai que la particularité de la planète Vénus, ce n'est pas une planète que nous observons en milieu de nuit. Soit c'est très tôt le matin, avant le lever du soleil, ou soit c'est juste après le coucher du soleil.
C'est vrai.
Voilà. Alors juste après du coucher du soleil, donc ça sera orientation ouest. Sinon, si c'est avant le lever du soleil, ben forcément ça sera côté est. Voilà.
Le temps fait comme les étoiles, il file. Quelles activités y aura-t-il aux Pléiades ?
toujours, y a des séances de planétarium qui sont organisées. Y a des astro-repas également qui sont organisés. Hein, c'est-à-dire que donc on mange sur place, hein, c'est un repas convivial, et après bon, c'est accompagné d'une conférence d'observation. Et justement, en ce moment, même s'il y a un petit peu de, je dirais, de brouillard, eh bien, ça ne nous empêche pas quand même d'observer les étoiles, d'autant plus qu'en ce moment, ben, ce sont les Léonides, hein, qui sont des étoiles filantes, hein, dont le radiant est placé dans la région du Lion. En fait, quand on parle radiant, c'est en fait un point virtuel d'où semblent provenir justement les fameuses étoiles filantes.
Oui. Alors, on en vient à ce précieux moment de l'émission et je suis hyper heureuse que vous soyez là dans notre studio pour nous l'annoncer. Parlez-nous de cette fabuleuse découverte que vous avez faite aux Pléiades à la Trappe. Découverte unique.
Bon, ce n'est pas moi personnellement qui ai fait cette découverte. C'est Michel Boutet et Jacques Sanchez, hein, qui est donc le président de l'Observatoire des Pléiades donc à La Trappe, qui ont découvert une étoile double en étudiant justement un phénomène d'occultation d'un astéroïde, en faisant donc des mesures photométriques, c'est-à-dire en analysant justement la lumière provenant de cette fameuse étoile qui était occultée par cet astéroïde, qui se sont aperçus justement que l'étoile en question n'était pas une étoile simple, mais en fait une étoile double, c'est-à-dire deux étoiles qui sont très rapprochés, extrêmement rapprochés. Donc, on a l'impression visuellement qu'on a affaire qu'à une seule étoile. Et seules les méthodes photométriques ont permis de mettre en évidence non pas une étoile, mais une deuxième étoile, hein, qui est située à proximité et qui est intimement liée gravitationnellement par l'autre étoile. Hein. C'est-à-dire que c'est deux étoiles qui tournent autour d'un même centre de gravité.
Oui.
Et cette deuxième étoile, jusqu'à présent, n'était pas répertoriée dans les catalogues internationaux.
Eh bien, c'est une excellente nouvelle pour l'Observatoire de la Trappe.
Tout à fait. Donc, chapeau donc, à Michel Boutet et Jacques Sanchez, qui ont mis du temps, justement, à exploiter, à traiter donc, toutes ces données.
Mm-hmm.
Et qui en ont profité d'avoir une fenêtre de météo clémente, justement, pour pouvoir faire cette découverte. Parce que quelques minutes plus tard, les nuages arrivaient. Les nuages qui n'aiment pas du tout les découvertes scientifiques des fois.
Vous qui les avez vus, comment étaient-ils quand ils ont fait cette découverte?
Moi, j'ai appris ça récemment, à vrai dire hier. Hein. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté également, parce que ce n'est pas facile justement de faire des découvertes de corps célestes, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez une concurrence avec les satellites tels que Gaïa, par exemple, Hipparcos, entre autres, qui font des mesures justement de milliers d'étoiles. C'est pas facile de trouver, de référencer justement une étoile, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont déjà classées dans ces fameux catalogues. Et il y a encore justement des découvertes à faire, souvent dans des contextes, je dirais, bien particuliers.
Oui. Et donc ça, c'est une très belle chose pour l'Observatoire de la Trappe en plein Volvestre.
Oui, tout à fait. Bravo à cette équipe.
Oui.
Et c'est un point important aussi pour l'activité de la structure également. Et indirectement, une bonne publicité pour le village aussi de la Trappe, qui, je vous rappelle, est classé village étoilé.
Oui. Hein,
c'est-à-dire que les villages qui font un effort de réduire leurs intensités lumineuses, eh bien, permettant justement de pouvoir observer le ciel et surtout le ciel profond, eh bien, ça, c'est un bon point positif pour donc tous ces villages qui contribuent aux découvertes scientifiques également.
Et ben, en effet, bravo donc à l'Observatoire Les Pléiades pour cette belle découverte. Et c'est tellement beau qu'on va finir avec cette bonne nouvelle. Denis, on se retrouvera le mois prochain pour voir ce qui se passe et on parlera peut-être de choses intéressantes à nouveau.
Oui, très certainement. À très bientôt et merci à toutes et à tous.